Vuela, pájaro de pequeña ala. Vuela hasta las estrellas.
Y continuar, te preguntas cada mañana, ¿será posible? Te preguntas cada mañana, ¿será verdad? Te preguntas cada mañana por tu pasado. Te preguntas cada mañana por qué pasó. Te preguntas si tus rencores has superado. Si eres feliz con lo que tocó.
Oh, the human race.
Soberbia mata, soberbia asesina.
Lo cantaba Marley, lo cantaba The Clash.
Soberbia hiere, soberbia elimina.
Lo cantaba Blades, lo cantaba el general.
Se carga el momento, se carga el amor.
Ari Belafonte y Facundo Cabral.
Se carga este mundo, se carga la voz.
Café Tacuba y maldita vecindad.
Soberbia mata, soberbia asesina.
Frankie, Roger y Benegao.
Soberbia hiere, soberbia elimina.
Radio Bemba y Manu Chao.
Se carga el momento, se carga el amor.
Como el bordelo y de Francia la paz.
Se carga este mundo, se carga la voz.
Especial si también Johnny Cash.
Soberbia es fácil que la vean los demás. De naipes el castillo, eres el centro una vez más. Te gusta humillar, te cuesta sacar disculpas con naturalidad. Hablas de vos mismo otra vez sin parar. Tu plan no funciona, desesperarás. Esconde la soberbia, estrategia.
L'œil écoute. Eh bien, je crois que parallèlement, on peut dire que l'oreille voit. Et l'oreille voit des choses. Alors, il peut voir des choses qui nous échappent.
Radio Esperanza.
On a coupé les Chesudaka, mais c'est pas grave. Hein. On va les retrouver cet après-midi, scène côté court sur Esperanza. On est toujours dans le 106.2 autour de Floref sur radio.esperanza.be et nos radios partenaires en Belgique et en France et sur le net avec Groovalisation. C'est avec Emeric qu'on retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle discussion qu'on va discuter avec nos invités. Je parle pas très français en ce 13h du samedi, mais c'est pas grave.
Salut,
je vais me corriger. Avec autour de la table pour parler musique alternative aujourd'hui. On a parlé hier de la représentation des musiques du monde dans la presse. Aujourd'hui, on va passer à ce chapitre des musiques alternatives avec Pierre de la Zone qui va nous représenter un petit peu ce lieu alternatif, comme on l'appelle, de Liège, avec Ben du magasin 4 à Bruxelles et avec Ludo, notamment de Radio Esperanza, de la Libertech, enfin voilà, qu'on retrouvera aussi demain. Et avec toi, Emeric, donc musique alternative, on devrait avoir normalement la participation d'un frère ou une sœur. Des Ogres de Barbac, hein, puisqu'on dit souvent des Ogres de Barbac que c'est un groupe alternatif. On leur demandera peut-être tout à l'heure ce qu'ils en pensent. Tout d'abord, c'est quoi le magasin 4? C'est quoi la zone pour ceux qui ne connaissent pas encore?
On va peut-être commencer par la zone.
Allez, commençons par Liège.
Écoute, la zone est une salle de concert qui existe depuis 91, qui a été créée par des personnes qui voulaient se sédentariser dans l'organisation de concerts. C'était des concerts qui étaient à ce moment-là alternatifs et à ce moment-là, le punk était alternatif, par exemple. Et pour organiser des concerts punk à ce moment-là à Liège, ou je pense n'importe où en Belgique, ce n'était pas évident parce qu'il fallait trouver des gens qui louaient une salle, qui faisaient confiance, qui et après, ben, il fallait nettoyer. calendrier, ce genre de choses, c'était extrêmement lourd. Donc l'idée des créateurs de la zone est de sédentariser l'affaire, d'avoir une salle à eux où ils pouvaient donner la parole à des groupes d'organisation et des groupes de musique dans cette salle. Donc elle a 20 ans cette année, en fait. Depuis, ben, elle s'est un peu diversifiée dans ses activités aussi. On fait aussi du slam, par exemple, ou du cabaret, du théâtre, des tables d'hôtes. Mais l'idée était effectivement de laisser une place à la culture alternative à Liège. Ce qui a bien marché et qui a fait école, moi j'y étais pas, donc j'en parle à l'aise en fait, hein, de la création du truc, mais depuis à Liège il y a quelques salles alternatives sur lesquelles on peut compter quand on est un groupe qui a envie de s'exprimer.
Ben,
mais au niveau du magasin 4, c'est une très grande histoire. Moi j'en fais partie depuis peu, depuis à peu près un an et deux mois, mais le lieu a aussi un peu plus d'une vingtaine d'années, puisqu'il y avait le bulletin avant, puis il y a eu le premier magasin 4. Il y a eu un an de coupure, puisqu'il faut savoir qu'à Bruxelles, comme beaucoup, dans beaucoup de grosses villes en Europe, il y a une énorme pression immobilière. Donc l'ancien magasin 4 a été revendu, ils ont fait des lofts. Il a fallu un an pour trouver un nouvel endroit. C'était très, très, très punk au début, parce que c'est un grand entrepôt du port de Bruxelles. Donc la première année, il n'y avait rien, c'était à l'air, donc en hiver... Il faisait plus chaud dans les frigos que dans la salle. Donc voilà, puis maintenant il y a eu des travaux l'été passé, donc il y a un toit, il y a un nouveau toit, il y a un sas à l'entrée, il y a du chauffage, donc la salle devient quand même beaucoup plus utilisable, je dirais. Et donc ici le but, c'est vraiment uniquement de la programmation musicale, donc on fait rien d'autre. Il y a peut-être le projet de faire des salles de répétition pour faire des résidences, mais grosso modo, nous ce qu'on veut faire c'est vraiment un maximum de concerts.
Ludo, la Logitech, c'est,
la
c'est
Libertech.
Quoi Libertech, oh là là.
Mais Libertech, c'est un réseau, en fait, c'est un réseau de diffusion, principalement, et ben, tout en licence libre, donc c'est pour ça que c'est un réseau de diffusion. Ça permet, justement, grâce aux licences libres, et voilà, et aussi aux musiques qui sont hors licence totalement, qui sont complètement libres, ça permet de pouvoir diffuser très très librement, diffuser dans des lieux, diffuser ben, sur diverses radios. Donc avant tout, moi je dirais que c'est vraiment un réseau mondial, parce que on prend de la musique libre un petit peu partout dans le monde, on va chercher, on sélectionne sur les grandes plateformes, et en même temps c'est liégeois, parce que ce sont des artistes liégeois qui s'inscrivent dans ce réseau et qui se font connaître à travers, voilà, à travers cette playlist qu'on a créée, on va dire, cette liste de musique libre.
Alors juste pour poser les bases, hein, de ce pourquoi on avait envie de discuter avec Aymeric des musiques alternatives, c'est parce que sur l'affiche d'Esperanza, il y a énormément de groupes qui soit sont dits de musique alternative, soit sont des découvertes, et qu'on considère, en tout cas en discutant avec Aymeric, que ces découvertes sont alternatives. En alternative à quoi, j'en sais rien, on va peut-être discuter de ça dans un premier temps. Je pensais notamment à Chesudaka qu'on vient d'entendre, qui est dit alternatif aussi à Barcelone. Quand on dit musique alternative, ça veut dire quoi pour vous, soit programmateur de salles dites alternatives, soit dénicheur de musique dite alternative.
Moi ça m'interpelle justement le terme alternatif. Alternatif dans le sens où est-ce que c'est une musique alternative ou est-ce que ce sont les moyens qui sont alternatifs, justement c'est là où on peut revenir sur la diffusion, justement sur la production, sur l'édition. Alors une musique est-elle considérée alternative uniquement parce qu'elle passe par ces moyens-là, par des moyens on va dire indépendants, autonomes de production et diffusion, ou est-elle alternative dans le style culturellement? C'est un petit peu difficile à définir, je trouve. Je pense que maintenant à notre époque on est plus alternatif à partir des moyens, justement.
Ouais. Donc pour toi, c'est les moyens. Mm-hmm. Et pour vous, Pierre et Ben?
Moi, je serais plus partagé entre les deux. Il y a vraiment des types de musique vraiment qui vont très très loin dans les limites de la musicalité, qui pour moi sont alternatives. On propose parfois du harsh noise. Pour beaucoup de gens, c'est pas de la musique. Pour moi, c'est de la musique.
C'est quoi du harsh noise?
Ben, c'est vraiment des murs du son. Merzbow, par exemple, artiste japonais ou ce genre de choses, qui vont vraiment à la limite de la musique. Pour moi, là, on est dans l'alternative. C'est-à-dire que ça va très loin au niveau artistique. Même si effectivement, le gars Merzbow, il vient en Europe, il joue à la baie, il a un cachet, il va à l'hôtel, voilà quoi. Donc entre le style de vie et la musique, je pense que les deux peuvent être alternatifs, mais effectivement, il y a des manières de faire. Maintenant, si je prends mon rôle vraiment dans une salle, pour moi au magasin 4, le fait qu'on soit alternatif, c'est la première chose. Si on n'a pas envie de faire un groupe, on ne le fera pas, donc il y a une liberté. On est tous bénévoles. Donc ça veut dire que le jour où ben moi, et ça m'est déjà arrivé puisque je travaillais au Belvédère avant, le jour où le projet ne me va plus, ben moi je peux me retirer, j'ai pas d'obligation. Tout le monde est bénévole, à peu près 35 personnes. Donc nous on fonctionne vraiment sur le volontariat. La personne qui veut venir apporter quelque chose le fait. Ce qui, je pense, c'est très alternatif par rapport au mode de fonctionnement de la société actuelle, qui est quand même basé sur le salariat de toute façon, sur la consommation. Ici effectivement les gens viennent consommer à un concert, mais on essaie quand même d'offrir autre chose.
Pierre, alternatif, alternatif à quoi ?
Voilà, c'est vraiment ça la question. C'est ça, alternatif. Pour nous, écoutez, à la zone, on a mis 4 ans récemment à essayer de voir ce qu'était le projet de la zone, qui devait être pour nous un projet alternatif. On estime que c'est une alternative à la culture qu'on pourrait appeler commerciale, en fait. Et pourquoi est-ce qu'elle est commerciale ? Elle est, en fait, commerciale parce qu'elle est vendue, prête à consommer, ce qui inclut généralement dans un style de musique qui est plus facile à entendre, qu'on a déjà entendu, genre le slogan de... Enfin, c'est pas le vrai slogan, mais de Classique 21, c'est « On vous passera des morceaux que vous avez déjà entendus 100 fois ». Mais s'il y a un certain confort, évidemment, à consommer ce genre de musique...
C'est vraiment le slogan ?
Non, c'est pas... Mais ça pourrait, tu vois, ça pourrait. L'idée de la culture, c'est aussi surprendre, c'est aussi d'aller vers quelque chose qui construit quelque chose dans son cerveau. C'est une manière de faire, c'est donc une manière de faire de l'organisateur, du musicien, de la salle, de tout le réseau en quelque sorte. L'idée, c'est fais toi-même ce pour quoi tu pourrais être assisté. Simplement, bouge-toi, fais tes trucs et tu pourras faire une culture qui soit en communication avec plein de gens. Donc c'est des groupes qui viennent avec une musique avec moins de concessions, parce qu'on fait toujours des concessions évidemment quand on est un groupe, mais avec moins de concessions qu'un groupe qui dont le but est de passer sur Pure FM. C'est pas un jugement de valeur, hein. Il y a pas un bon et une mauvaise culture. Il y a une culture qui correspond à certaines personnes et une culture qui correspond à d'autres. Il y a des gens qui ont envie de passer du temps sur la musique pour essayer de la comprendre, pour aller plus loin dedans et l'apprécier. Il y en a d'autres pour lesquels c'est juste accessoire. Mais tout ça est extrêmement bien. Mais l'attitude de construire un événement avec un concert, donc avec des groupes qui viennent, est totalement différente que l'on soit dans un grand centre culturel ou que l'on soit dans un endroit comme la zone ou plus loin encore, dans un endroit comme le magasin 4. À la zone, il y a des emplois subventionnés et tout. L'attitude de la boîte La Zone est moins alternative que la boîte magasin 4, où finalement c'est de la démerde, du DIY. Pour nous, à la zone, c'est ça l'alternative. C'est sortir des sentiers battus et aller là où il y a des trucs surprenants, où il y a des trucs qui imaginent des nouvelles choses. Et finalement, où on se rend pas spécialement compte de l'intérêt de l'alternative, c'est que l'alternative d'hier est devenue la pop d'aujourd'hui. Et la pop de demain sera faite par l'alternative d'aujourd'hui, simplement. C'est pour ça que quand on parle on parlera peut-être de la SABAM après. La SABAM a une attitude, effectivement.
Ah non, on va en parler demain, Pierre.
D'accord.
Chaque jour son débat.
Je veux dire quand même
on peut parler de la communauté française d'ici. Enfin,
oui,
avant,
mais
avant la SABAM, peut-être.
Effectivement, la communauté française ne regarde pas spécialement notre programmation. Elle regarde notre manière de faire. Ce qui rentre dans l'alternative, dans notre organisation, c'est de... Effectivement, il y a des gens qui viennent consommer des concerts, mais les portes sont ouvertes. Vous pouvez devenir, en venant à la zone, voir le concert, apprécier, boire un coup, rentrer chez vous, ou venir voir et puis rencontrer des gens et se dire « Ah, mais moi, je ferais bien bénévole. J'ai ce talent-là ou celui-là, que ce soit repeindre une porte ou de l'informatique, hein, peu importe. » Mais l'idée de participer à la création de l'événement, c'est laisser ces portes ouvertes pour que les gens puissent s'y retrouver. Et à chaque fois qu'on passe un niveau, on s'aperçoit qu'il y a encore une porte ouverte de plus. C'est-à-dire qu'on peut commencer à venir voir un concert à la zone et finir dans le conseil d'administration, en fait.
Attention.
Mais c'est pas automatique. C'est pas n'importe qui peut, évidemment, parce qu'il faut s'insérer dans le truc et il faut que pour entrer dans le conseil d'administration, on est quand même élu par l'Assemblée générale qui est, enfin, bref, dans tout
non,
ça.
Ça désacralise, désacralise quand même pas mal aussi le fonctionnement d'une salle.
Bien sûr, oui, mais.
Parce que quiconque rentre à la baie a de plus en plus de difficultés à finir au conseil d'administration, si tu vois
mais
ce que je veux dire.
Le but de la baie n'est pas celui de la zone.
Voilà.
Le but de la baie est est d'être, à mon sens, une vitrine pour la communauté flamande, ou je ne sais pas comment on dit exactement, mais donc ils ne sont pas là pour faire de l'insertion sociale, quoi, finalement. Ils sont là plus pour montrer des trucs qui pètent et tout, et ils le font bien. Nous, notre but, la zone, on est une salle de concert subventionnée, mais on est une maison de jeunes aussi. Donc on a ce rôle, une maison de jeunes un peu particulière, où on ne s'occupe pas de mettre des kickers, des machins, mais on essaie de mélanger les générations, on essaie que les gens qui viennent deviennent acteurs actifs et pas juste consommateurs, se rendent compte de l'importance de leur présence, de leurs actes. Enfin, voilà, tout ça est fait en faisant participer les gens à des trucs. C'est pas la peine de faire des tableaux en mettant « soyez responsables ». Il faut que les gens sentent qu'ils doivent devenir responsables, simplement.
Mais attends, je viens, si je pourrais. Mais donc, par rapport au style dont vous parlez, c'est vrai que voilà, que ce que tu disais par rapport à la pop de demain, machin bidule, aujourd'hui la communauté française organise des concerts, enfin des concours de rock dur. Alors voilà, c'est une manière pour le public de suivre un petit peu l'évolution, enfin moi je prends ça un petit peu comme ça, et d'essayer de se mettre à la page. Maintenant c'est une bien manière sûr. Aussi un petit peu différente d'envisager la chose. Enfin, puisque voilà, là on cherche aussi à sélectionner, à mettre en valeur certains plutôt que d'autres, etc. Alors que, évidemment, même s'il y a quand même une sélection, enfin, la sélection à la SABAM, à la zone se fait d'une certaine manière. Au Magasin 4, c'est une équipe, je crois, aussi, une petite équipe.
En fait, au Magasin 4, on est à 3 à s'occuper de la programmation.
Donc, à 3.
Il y a moi, Christophe, Denis, on est tous les 3 bénévoles et c'est vraiment très informel. Bah, hier, je suis passé 2 heures et on a à peu près réglé une dizaine de concerts pour la rentrée. On s'est vu, on a écouté les groupes, on a regardé. Donc c'est vraiment alternatif par rapport à
un peu plus avant, non? Plus de gens, non?
Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des réunions. Donc il y a des réunions où il y a une trentaine de personnes. Là, on fait des écoutes, en fait, de tous les CD qu'on a reçus. Et là, effectivement, toute l'équipe donne son avis. Mais bon, il faut le travail vraiment de programmation qui est de recevoir une tonne de mails par semaine, d'aller écouter tout, de répondre aux gens, puis de faire des offres de cachet, de négocier. Ça prend parfois vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. C'est là aussi, on pourra peut-être en parler après, dans la musique alternative, il y a quand même pas mal, même si c'est alternatif, il y a pas mal de sous qui circulent.
Il faut vivre, évidemment.
Donc voilà, nous, on est vraiment, pour faire la prog, ce travail-là, on est à 3. Donc par rapport à la communauté française, je pense que chez nous, c'est intéressant parce que c'est très différent de la zone, puisqu'on est reconnu Club Plasma.
Oui.
Donc nous, comme l'entrepôt Arlon, l'atelier Rockaoui, etc., on fait partie du réseau de la communauté française, réseau officiel. Donc ça veut dire que nous, on est subsidiés par la communauté française. On a un certain nombre de missions à remplir qui ne sont vraiment pas difficiles, c'est-à-dire qu'on s'accorde bien avec la communauté française. S'ils font une tournée des vainqueurs du concours circuit pop-rock, ben nous, on ne fera pas jouer les groupes parce qu'il n'y aura personne, ça ne cadre pas du tout avec la salle. Par contre, effectivement, à la programmation, on a une demi-finale du concours rock, circuit rock dur, il n'y a pas de problème. Les fêtes de la communauté française, non, ça a changé, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles maintenant. Donc ça a changé, il faut bien revenir. Parce que nous, on avait mis ça, puis on a dû changer, ça a changé d'appellation. La Fédération Wallonie-Bruxelles, bah, nous, c'est Ex Machina avec 3 groupes belges, donc c'est pas du tout pop-rock. Et on a fait les fêtes de la musique, qui était musique de travers, qui est aussi alternatif avec des groupes un peu à la Captain Beefheart, et puis d'électro à la fin, de breakcore. Donc il y a moyen de faire partie de la communauté française, et malgré tout, d'aller vers autre chose.
Alors, les ogres de Barbac, deux d'entre eux viennent de rentrer dans les studios.
Bonjour.
Merci beaucoup parce que...
Bonjour.
C'est qui ?
Alors, je suis Sam. Bonjour.
Bonjour
Sam.
Et Mathilde.
Et bonjour Mathilde. Merci beaucoup parce que vous arrivez en plein débat. Je vois vos yeux écarquillants en entendant communauté française, court-circuit. Donc des choses qui sont un peu éloignées de votre quotidien. Mais vous inquiétez pas, on va revenir aussi à... merci beaucoup de venir parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, juste avant que vous arriviez. On parle beaucoup de groupes sur l'affiche d'Espéranza en tant qu'alternatif. On se pose la question dans cette discussion avec Ben, qui est programmateur dans une salle alternative de Bruxelles qui s'appelle Magasin 4. Ah oui. Pierre, la zone à Bruxelles, à Liège, pas confondre avec Bruxelles, qui aussi programme dans une salle à Liège. Et puis Ludo, qui programme de la musique libre, donc à l'inverse de la musique copyrightée, si ma mémoire est bonne, hein, pour faire court et un résumé. On dit souvent, on vient de définir tous autour de la table ce qu'on entendait chacun, ce qu'entendait par musique alternative. On dit souvent des ogres, et vous le dites aussi en interview, que vous êtes en marge d'une certaine, d'un certain milieu musical qu'on entend sur les ondes, etc. Ça veut dire quoi pour vous, musique alternative ?
Alors oui, déjà en effet, c'est pas un style de musique, c'est une démarche, vraiment. Alors qu'avant, nous, quand on a commencé, on croyait que c'était un style, on est des alternatifs. En fait, non, parce qu'on écoutait voilà, la Mano Negra, les Berru et tout ça, pour nous c'était ça la musique alternative, alors qu'en fait voilà c'est plutôt dans la démarche. Et bien nous ça a été vraiment de montrer aux gens qu'il n'y a pas une seule façon de faire de la musique, mais plein de façons de faire de la musique, plein de façons de faire ce métier, comme tous les métiers, voilà, et c'est ce qu'on essaye vraiment de montrer. qu'il y a toujours des chemins de traverse, voilà. Et bah, nous, ça a été par l'indépendance, mais voilà, il y a aussi certainement d'autres manières de faire. Mais nous, voilà, c'était l'indépendance. C'est ça notre fer de lance.
Donc avoir un label indépendant, et puis et après pour.
Ouais, du coup, on a créé un label, notre propre label, et puis on a. En fait, on gère tout, la tournée, les disques, la production, les éditions aussi depuis peu. Donc voilà, on est vraiment complètement indépendant.
Alors la question de l'indépendance, j'aimerais qu'on en discute autour de la table, parce qu'on parlait tout à l'heure de subventions de salles alternatives. Il y a aussi des subventions pour créer des disques, hein, en France et en Belgique. Est-ce que c'est important pour le schéma alternatif d'être indépendant par rapport à des subsides publics ou même des sponsoring privés?
Nous, c'est plutôt indépendant par rapport au major, on va dire. C'était justement pour pas rentrer dans le moule des cinq majors et puis de faire autrement. Après, on s'est pas demandé les subventions, donc on en a pas. Mais si on savait les demander, peut-être qu'on en aurait. On n'est pas contre, en tout cas.
Pierre et Ben.
Il faudrait voir ce qu'implique le subside en question. Quelle est la condition pour le recevoir? La zone est subventionnée comme une maison jeune.
Mais ne fait pas partie du club Plasma.
Non. C'est un autre réseau, évidemment. Nous sommes maison jeune. Nous sommes subventionnés au niveau des emplois, au niveau de l'équipement, un petit peu, ce genre de choses. Mais on doit quand même faire des sous nous-mêmes. Mais le problème, c'est s'ils nous donnent les sous pour faire des trucs avec lesquels on n'est pas d'accord, alors on est crétin de continuer. Si ça colle, alors pourquoi pas? Dans ce cas-là, ça nous donne les moyens de faire ce que l'on veut faire. En gros, et comme je disais, l'attitude alternative, elle n'est pas spécialement dans le groupe ou dans l'organisation. Elle est dans tout. C'est plus une attitude qu'autre chose. C'est pas un genre de musique. C'est comment on fonctionne, quoi. Qu'est-ce que ça laisse comme possibilité? Est-ce qu'on fait que consommer un truc et puis bye bye? Ou est-ce qu'on crée réellement des liens avec les artistes, avec le public, avec etc. Et tout ça, si les subventions le permettent, pourquoi pas?
Ben nous, on est subventionné, Club Plasma, donc c'est vraiment comme salle de concert.
Donc le Plasma, est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et aux auditrices et aux ogres aussi?
Oui, donc c'est le réseau officiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'est Bruxelles-Wallonie, c'est la partie francophone de Belgique, et donc ça reprend une dizaine de clubs, le Recyclard à Bruxelles, il y a le Coliseum à Charleroi, l'Atelier Rockaoui, etc. Donc ce sont tous des clubs qui sont reconnus par cette fédération, le ministère de la Culture en fait. Nous, on a des très bons rapports avec eux. Fadil Alanan était venu à l'ouverture de la nouvelle salle, donc on n'a aucun problème. Mais c'est vrai qu'ils nous imposent, rien du tout. Enfin, c'est assez ridicule, c'est genre faire jouer 25 groupes de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur l'année. C'est les doigts dans le nez, en un mois, on a ça comme groupe qui joue, quoi. Donc,
mais oui, enfin, ils imposent pas grand-chose, ils donnent pas énormément non plus, je pense, enfin par rapport à ce qu'on peut espérer, qu'on programme. C'est pas très important, je crois que, enfin, j'en avais discuté avec Denis aussi. Ouais. Ce qui est important aussi, c'est au niveau communication, le fait de mettre les salles en réseau et de faire de la promotion et de permettre au groupe aussi de savoir qu'il existe un réseau et de pouvoir tourner ailleurs, ce genre de choses, ça me semble quand même assez important. Je ne sais pas à la zone s'il y a eu des choix de ne pas en faire partie ou si ça s'est
proposé, voilà. On est de toute façon en réseau moins formel, sans doute, avec des tas de salles, avec des tas d'artistes et même avec des tas d'organisateurs, réellement. Donc, on n'a pas besoin de ça spécialement pour créer le réseau. Je crois plutôt, en fait, que la communauté Wallonie-Bruxelles, machin, s'appuie sur ce qui existe pour dire, mais oui, finalement, nous aimons que ceci existe et nous allons l'aider. Et finalement, ce n'est pas une mauvaise attitude de voir ce qui existe, de privilégier ce genre d'attitude. Il me semble que c'est plus ça. Il y a pas, parce qu'il y a le Club Plasma, un réseau, il y a un réseau et le Club Plasma a dit tiens, on pourrait formaliser cette affaire-là.
Pour parler du Club Plasma, il faut bien dire que c'est très 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 hétéroclite et que parfois au magasin 4 on est plus proche du Rockery La Charleroi ou de la zone que d'autres clubs Club Plasma. Si on prend par exemple la ferme du Biéro et nous, c'est totalement à l'opposé, quoi. C'est, d'un côté on va programmer des reprises de Gainsbourg et nous on va faire un week-end grindcore et puis une soirée dubstep ou un truc comme ça. Donc on est vraiment, c'est très très hétéroclite, quoi. Donc les réunions sont parfois assez intéressantes pour voir les visions complètement différentes qui peuvent exister avec 60 km de différence entre les salles.
Alors j'ai vraiment l'impression qu'il y a une dark side, enfin il y a un côté, soit t'as ton côté alternatif, soit tu l'as pas. En tout cas, c'est avant que les ogres arrivent dans le début de la discussion, j'entends professionnalisation, j'entends bénévolat, j'entends aussi major. On a interviewé Tikenja il y a quelques semaines, je lui posais la question, puisque c'est moi qui l'ai faite, sur sa signature avec une grosse société de live qui s'appelle Live Nation, qui est présente en Belgique, mais qui est aussi présente maintenant en France. C'est un des premiers artistes français à avoir signé. qu'on pourrait appeler une major du live, hein, en quelque sorte. Il est déjà, lui, signé chez Universal, et il répond à ça que tant qu'on lui laisse chanter chez Chanson, il n'y a pas de problème pour lui. Alors je vous retourne aujourd'hui la question, est-ce que si vous signez chez alors pour les ogres du coup, si vous signez chez une major et qu'on vous laisse tranquille et qu'on vous laisse faire votre boulot que vous faites actuellement, et est-ce que si les salles vous signent un contrat avec je sais pas moi une grande marque de bière et qu'on vous laisse tranquille sur la programmation, est-ce que c'est pas gênant quelque part?
Nous, en fait, on nous laisserait pas tranquille, c'est ça le truc, c'est que on a tellement de projets un peu farfelus. Chaque année, on fait une tournée avec un décor. On est parti avec des chapiteaux en Europe. C'est des projets complètement anti-commerciaux et où on est sûr, enfin, pour une maison de disques, on serait sûr de se planter. Donc nous, en tant qu'indépendants, on a vraiment la liberté de faire ce qu'on veut. C'est sûr et certain qu'avec une majeure, on ne ferait pas tout ce qu'on fait là.
On a trop de projets débiles.
Voilà. Mais en quoi, vous êtes sûr qu'à un moment donné, ça ne va pas les intéresser à force de... Non.
Alors enfin, je demande. Hein. Peut-être, mais en tout cas, c'est sûr que commercialement, ça ne peut pas les intéresser pour l'instant, parce que, par exemple, on sort des disques quand on en a envie. Dès qu'on a 15 chansons, on se dit hop, on sort un disque, et on n'attend pas telle période. Alors que si, normalement, il faudrait attendre telle période. Il faudrait laisser le disque vivre 2 ans et demi selon la loi. Alors que nous, si c'est 1 an après, ben on le sort 1 an après, on s'en fout.
Il faudra faire un titre radio. Il faudra faire toutes ces choses-là. Nous, c'est complètement. Pour nous, ça, on est à côté de la plaque.
Vous ne pratiquez pas le 330
Le 330, alors sur le dernier album, on a essayé, puis on a complètement raté.
Ouais, on a essayé.
C'est la durée d'un morceau radioisable.
On l'a fait
quoi.
Et personne n'en a voulu.
Les grosses radios en France, de toute façon, ne nous programment pas. Donc on a essayé, mais voilà, c'est pas grave.
Mais ces trucs-là qui a tué Starflum, par exemple, enfin, il y a sans doute d'autres choses, je sais pas, mais Starflum a toute liberté de faire, après leur premier album avec beaucoup de succès, ils ont eu toute liberté de faire ce qu'ils voulaient. Mais la contrainte, c'était, il fallait sortir autant d'albums en autant d'années. Donc, il y a quand même une contrainte de fou. Ces majors sont là pour faire du commerce. Donc, fatalement, elles vont mettre une contrainte pour pouvoir en faire. Si votre attitude et votre capacité, c'est de pouvoir en faire, et comme Tijon Jafakoli, je ne sais pas, s'il peut pondre un millier de bons albums en un millier d'années, ben la major sera contente. Et lui, il aura un support de distribution, de visibilité. Bon, pourquoi pas. Mais il faut pas oublier qu'un artiste, je pense, ça se commente pas comme ça. Tiens, on a 1 mois pour sortir un album, ben on est dans la merde, quoi. En gros, sous la pression, je pense pas que ça peut fonctionner comme ça. Tu parlais, s'il y avait une grosse compagnie de bière qui nous donnait des sous sans rien en échange, ben le problème c'est que les compagnies de bière ne donnent pas sans rien en échange. Ils donneront si tu fais la publicité pour eux, par exemple. Maintenant, s'il y a une grosse compagnie de bière qui vient nous dire, tiens, on vous donne 1 fût sur 10 gratos, mais rien d'autre comme compensation, ben, pourquoi pas, je veux dire. Mais où est leur intérêt, alors? Dans ce cas-là, ils ne font pas un geste commercial. Ils font un geste plus de sponsoring, enfin, de même... Tu vois, c'est du support dans une scène... C'est extrêmement rare d'avoir des gestes désintéressés. Mais pour moi, dans l'alternative, tu as la permission de faire des gestes désintéressés. Alors que dans un geste commercial, ben, tu peux pas être désintéressé. C'est l'opposé, quoi. Tu es censé ramener du pognon d'une manière ou d'une autre, quoi. Et encore une fois, je juge pas l'affaire. Il faut des commerçants, il faut des gens qui font pas commerce pour qu'il y ait un monde équilibré. Mais voilà, il me semble que c'est ça. Si c'est pas intéressé, si ça donne pas des contraintes, c'est pas réellement commercial comme truc. Tu vois, ou alors tu peux avoir des contraintes de l'État qui donnent qui vont dans le sens que enfin, genre on est subventionné pour faire de l'ouverture sociale et finalement à la zone on est plutôt pour faire de l'ouverture sociale avec certaines conditions, une certaine manière. Donc finalement ça rentre avec ce qu'on veut, quoi. C'est pas comme si on se prostituait, on prend l'argent qu'ils nous donnent pour faire ce qu'on a envie de faire. Donc voilà, on n'est pas acheté, quoi.
Alors je reviens sur la professionnalisation, c'est quelque chose aussi que les ogres vous avez connu dans votre parcours. À partir de quel moment on décide d'en faire sa vie? Est-ce que pour vous ça a été directement le cas? Ça pose un certain nombre de questions puisqu'il faut bien gagner sa croûte à un moment donné. Donc est-ce que forcément professionnalisation dit quelque part de mettre de l'eau dans son vin alternatif? Alors... Je poserai la même question aux salles aussi parce que j'entends bénévolat et voilà.
Alors, nous, on a un statut en France, le statut des intermittents du spectacle, qui nous a permis de faire ce groupe de cette façon-là. Sans ce statut-là, on n'aurait pas pu du tout le faire. Donc voilà, on espère que ce statut va continuer.
Il se trouve qu'on a commencé très jeune aussi. Donc,
très, très jeune, ouais.
En fait, on a quitté l'école et hop, on a fait de la musique. Au bout de 4 ans, on était intermittents, donc ça allait assez vite. On ne s'est pas plus posé la question que ça. au début, en fait.
Voilà, nous, notre système, c'est de faire des concerts. On en fait 100 par an depuis le début. Donc voilà, maintenant, avant c'était des petits, maintenant c'est des gros, mais on continue sur notre lancée. Donc forcément, bah, voilà, ça nous fait trois sous quand on fait plein de concerts.
Moi, je pensais aussi, en pensant à vous, à un groupe comme DX aussi qui est autoproduit. Et, bon, pour la diffusion, je sais pas très bien comment ils s'arrangent, mais je sais qu'aussi, ils sont en contact avec beaucoup, beaucoup de musiciens et ils font souvent des projets particuliers. Vous parliez d'une manière, vous essayez de montrer une manière différente de faire de la musique. Est-ce que faire de la musique différemment, c'est aussi essayer de créer avec d'autres gens, rester ouvert à d'autres possibilités
C'est même que ça, pratiquement, parce que c'est vraiment ça qui nous fait triper, nous, et qui nous fait avancer, c'est les rencontres, et puis c'est ces projets-là. Alors, dès qu'on rencontre des musiciens qu'on aime, on peut pas s'empêcher de les inviter sur nos albums, et ça, voilà, ça permet tout ça, ouais.
On revient à la notion de démarche, hein, clairement, et c'est vrai que c'est une démarche que... On peut parler du chapiteau, justement. Moi, j'aime beaucoup cette démarche que vous avez prise pour sortir aussi un petit peu de la logique programmation dans les grandes salles, et dans prendre un chapiteau, aller comme les forains le faisaient, aller le planter. C'est une bonne démarche, en fait. C'est une démarche saine aussi au niveau
humain. Oui, on avait envie de se lancer dans l'organisation des concerts aussi, pourquoi pas. Enfin, s'implanter dans une ville pendant une semaine, c'est quand même autre chose que d'arriver un soir, de jouer, puis de repartir le lendemain. Là, on s'occupait vraiment de tout, la promo, enfin voilà.
Et pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas assez de salles alternatives, comme à Liège et à Bruxelles ? Allez, je vous pose la question comme ça.
Ben, en France, en tout cas, c'est vrai qu'il n'y en a pas tant que ça. Ouais, il y a des SMAC, mais bon, c'est pas alternatif du tout, une SMAC.
Rappelle un peu ce que c'est qu'une SMAC.
Salle de musique actuelle, voilà. Alors, on a mis, nous, plusieurs années à accéder à ces salles-là. Au début, on les louait parce qu'ils ne voulaient pas nous programmer. Allez, je balance.
Non, mais il faut.
Et puis maintenant, ils commencent à nous programmer. Mais voilà, c'était aussi le chapiteau pour aller dans des endroits, justement, où il n'y a pas de salle de concert. Et voilà.
Pour ramener notre ambiance aussi, tout simplement. Voilà, on ramène un truc complètement différent de ce qu'on peut trouver dans une salle habituelle.
Alors, ce qui est très drôle, c'est que vous parlez d'itinérance avec un chapiteau, alors que tout à l'heure, Pierre, de la zone à Liège, nous parlait de sédentarisation de cette salle alternative. Est-ce que les ogres pourraient être programmés à la zone ou au magasin 4 ?
D'ailleurs, on a fait les deux.
Ouais. Bien sûr.
Et bam.
Bravo. Mais je parlais de la sédentarisation des organisateurs. Oui. Tu vois, ici on parle d'un groupe aussi qui doit aller voir des publics différents. L'organisateur, s'il n'a pas une salle, ben il est dans une situation plus précaire que s'il a une salle. Mmh. En gros, et c'est ça qui a donné lieu à la création de la zone il y a 20 ans, quoi. Effectivement, c'était ce truc de se dire, mais attends, moi je me tue au boulot pour essayer de faire un concert, alors que ça serait plus facile si j'étais installé. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. Et donner alors l'accès à une scène, à des gens qui étaient méprisés par les organisateurs à ce moment-là. Je veux dire, quand t'as un punk avec des piercings et des crêtes qui vient dire, je voudrais bien louer votre salle, madame, elle appelle les flics, hein. Donc c'est un peu ça aussi, c'est les punks n'arrivaient pas à s'organiser, ou alors dans des conditions immondes, quoi, vraiment. Et ben, voilà, créons un endroit pour ça. Comme je disais, à ce moment-là, l'alternative, c'était clairement ça. Maintenant, ça peut aller plus vers le rap ou des trucs comme ça. Il y a aussi des cultures alternatives de maintenant qui ne trouvent pas de lieu où s'exprimer hors de leur ghetto. C'est chaque fois des petits ghettos, hein.
Mais je pense qu'il n'y a pas une alternative, de toute façon, hein, c'est bien clair, il ne faut pas essayer de distinguer l'une de l'autre, la subsidiée, la non-subsidiée. Le gars qui vient dans la rue, qui se met sur un trottoir et qui vient faire un spectacle de rue, c'est aussi un moyen alternatif, bien sûr. Ouais. Il n'y a pas une seule alternative, il y a 10 000 possibilités de sortir des sentiers battus. Ouais.
J'entends beaucoup punk dans la bouche de Pierre depuis tout à l'heure, donc je vais rebondir là-dessus, parce qu'on en a discuté hier avec les Chacapunk, qui nous parlaient de leur tendance punk. Mais qui disait quand même que le principe du No Future, ils étaient plus bien d'accord. Donc je vous pose la question, parce que c'est vrai que c'est un gros mouvement alternatif, le punk. On se souvient de Boucherie Prod, on se souvient des débuts de la Mano Negra, on se souvient aussi de Putas Fever. Le titre de l'album n'est pas non plus étranger à cette notion d'alternative et de signature chez une major de l'époque. Est-ce que ce mouvement punk existe encore dans les salles que vous représentez, Ben et Pierre ? Et est-ce que les ogres de Barbac se sentent proches de ce mouvement qui existe ou qui n'existe plus ?
Moi, je dirais chez nous, parfois, quand on programme du punk, c'est peut-être, en tout cas dans la forme de musique, la musique la moins alternative, quoi. C'est-à-dire, c'est tellement rempli de clichés que parfois, voilà. Et effectivement, même dans nos bénévoles, on a certains punks et... Je pense qu'il y a de l'ouverture quand on en discute, quoi. C'est plus, je pense, c'est plus bloqué en 77, No Future, on va tout casser et tout. Je crois qu'il y a quand même beaucoup plus de différence par rapport à ça, d'ouverture. Je pense qu'effectivement, si on prend les années 80, moi, quand j'étais gamin, j'écoutais Les Garçons Bouchers, et c'est tout. Les groupes américains, ça arrivait quelques années après, etc.
Mais ça, c'est pas mort, quelque part.
Et donc, maintenant, je pense qu'il y a beaucoup plus de chapelles, de choses dans tous les sens, quoi. Donc, on n'est plus sur l'alternative c'est être punk, l'alternative c'est être rap. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de formes de mouvements, de chapelles qui essayent de faire leur chemin. Effectivement, en dehors d'un chemin tout droit où on met la locomotive, on va sur les rails, on va tout droit, tout est préconçu. Donc, mais effectivement, le punk, pour moi, comme beaucoup de types de musique, porte beaucoup de clichés en lui.
Oui, mais c'est devenu le mot punk est devenu à la mode. Effectivement, il y a tout les petites gonzesses de 15 ans qui se prétendent punk parce qu'ils mettent un peu. Oui, mais par contre, la génération changée, il y a des jeunes qui sont dans ce mouvement qui est en fait un mouvement DIY, qui est un mouvement antiraciste, tolérant, tu vois, et c'est un truc du genre, ben si tu me juges sur mon apparence, va te faire foutre, ce n'est pas la peine, ça, tu vois, mais c'est ça aussi, ce grimer, finalement, c'est un peu ça. Je crois qu'il y a une nouvelle génération de gens qui ont compris ce que c'était. Je crois qu'il y a une nouvelle génération de gens qui s'appellent punk mais qui ne sont finalement que des trous du cul. J'en vois, quoi, réellement, des gens qui savent pas ce que c'est que d'être punk. Oui, mais finalement, je pousse la vieille dame sur dans l'escalier, quoi. Ça n'a rien d'être punk, ça, effectivement. Par contre, je crois qu'il y a du nouveau punk dans le sens où, à ce moment-là, le punk était dans un ghetto, comme je disais, qui avait difficile de s'exprimer et qui restait entre eux, finalement. Hein. C'était une manière de... Évidemment, la solidarité entre eux leur permettait d'exister, mais la musique restait confinée dans un ghetto. Il y a, à cette époque-ci, des musiques qui restent, elles aussi, confinées dans des ghettos. C'est là que je parle de rap. Évidemment, le rap de MTV, on n'est pas là-dedans, mais le rap des jeunes qui sont à droite, par exemple, ne sait pas s'exporter autre part dans la ville. Donc, parce qu'il y a des réputations et des trucs. Et effectivement, il y a des soirées qui sont plus visibles que d'autres là-dedans, mais il y a des soirées avec des publics fort respectueux aussi là-dedans. Donc le punk nouveau dans le sens alternatif existe. Il est dans plein d'autres mouvements qu'on ne voit pas en mainstream, évidemment. Mais
les Ogres, vous parliez tout à l'heure de la Mano Negra qui ont signé chez Boucherie Prod. Ils ont sorti leur album Putas Fever en hommage en quelque sorte à cette sortie de l'indépendance rock'n'roll de Lazzaro. Aujourd'hui, Lazzaro d'ailleurs est chez une major. Ouais, il n'y a pas un âge où on s'arrête
Alors, on s'en pêche rien, mais pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité. En tout cas, oui, nous, on est vraiment des enfants de cette génération. Mano Negra, Boucherie, c'était nos maîtres à penser. Voilà. Donc nous, on essaie de faire pareil.
Après, nous, on a quand même une vraie particularité, c'est d'être une famille. Et mine de rien, ça joue. Enfin voilà, on a vraiment les mêmes envies, les mêmes idées. On n'aura jamais de problème d'ego ou de choses comme ça. On arrive à se gérer. Et je pense que ça aide aussi. Voilà, pour l'instant, on est bien, quoi.
Mais quand on achète une maison en Ardèche, comme c'est votre cas, ouais. Quand on se sédentarise après avoir fait la tournée avec un chapiteau, il y a un âge où on s'arrête, où on se dit, bon, allez, ça suffit maintenant, l'alternative.
Ce qui est compliqué, c'est financièrement, parce que tant qu'on vendait des disques, c'était bien. Chaque disque payait celui d'après, voilà, et tout va bien, et c'est cool. Maintenant que le disque se casse la gueule, pour nous aussi, voilà, c'est à nous de trouver encore une fois des alternatives là, et pour continuer à être indépendants.
D'où la
c'est
maison en Ardèche, avec un petit studio dans lequel nous fabriquons nos disques.
Et hop, on les met directement sur Internet, ouais. Presque.
Justement,
en tout cas, à trouver des solutions, voilà, pour pouvoir continuer comme ça. Ouais.
Vous dites que vous souffrez de la crise du disque, en quelque sorte, hein, c'est très clair. Vous en souffrez deux fois plus que les gros.
Deux fois moins, ouais, parce que déjà nous ça a mis beaucoup de temps à venir, cette crise du disque, enfin à la ressentir en tout cas. Voilà, maintenant on a atteint un stade de vente d'albums qui ne descend plus, donc voilà, on peut compter sur tant d'albums vendus, c'est 50 000 en France, et voilà, on sait qu'on peut compter là-dessus.
Et on continue avec un album à payer le suivant en fait, donc à chaque fois on remet en question celui d'après, comment on va se débrouiller pour faire. Voilà, on connaît notre budget, du coup, donc c'est, en fait, ça va.
Donc, c'est encore un retour au Do It Yourself dont parlait Pierre tout à l'heure, mais vraiment total, quoi.
De plus en plus, ouais. Déjà, nous, on l'a toujours fait, mais en plus, on voit que, bah, du coup, maintenant, tout le monde se met à le faire. Alors, on se dit, voilà, c'est peut-être ça la solution. Et effectivement, le fait de se faire son petit studio, de se faire ses pochettes, de faire, enfin, voilà, vraiment tout ça, faire la musique d'une façon artisanale, on voit que même les gros sont en train de faire ça, et ils font ce qu'ils appellent le 360. Voilà, c'est-à-dire s'occuper de la tournée aussi et de la production du disque et que tout ça aille ensemble. Nous, c'est ce qu'on fait depuis le début, donc voilà, la solution est peut-être là.
Alors Ben et Pierre, vous nous avez parlé tout à l'heure, bon, vous en parlez du punk, de certains styles qui sont quand même plus représentés, on va dire, chez vous, le hip-hop, l'électro aussi, d'autres courants plus marginaux du rock, métal, etc. Voilà, finalement, bon, c'est, enfin, est-ce que vous restez pas parfois emprisonné, allez, c'est, enfin, vous forgez une identité aussi, et puis bon, les ogres, ils sont passés au magasin 4 apparemment, est-ce qu'ils pourraient encore repasser, ou est-ce que bon, c'est quand même plus trop dans ce qui se fait, quoi, dans l'identité, dans je ne sais pas,
du magasin 4 par exemple,
voilà. Enfin, c'est pas vraiment ça. C'est plus je sais pas,
mais nous on referait volontiers les ogres, mais je crois que c'est une question de budget aussi. Ouais, chacun grandit, ouais, fatalement, et c'est normal. Je veux dire, la zone est une salle de 200 personnes qui est là pour accueillir des groupes qui ont peu de moyens, ce genre de choses. La zone n'a pas énormément de moyens.
Je peux dire que sans la zone et sans le magasin 4, on serait pas à Esperanza aujourd'hui, voilà, ça c'est clair.
Probablement, et je trouve ça normal que vous ne puissiez plus jouer à la zone. Voilà, la zone a un rôle. Après, le groupe il grossit, et ça n'enlève pas le côté alternatif du groupe. C'est juste que il y a d'autres contraintes. Il y a toute une famille qui se crée. Il y a un achat d'une maison. Il y a des choses, effectivement. Peu importe comment on utilise, enfin pas peu importe comment on utilise l'argent. Peu importe l'argent qu'on se fait, du moment qu'on l'utilise à bon escient. Et moi, je trouve normal qu'on ne puisse plus, qu'on ait plus les moyens à la zone d'organiser les ordres, mais c'est pas une question de volonté, c'est une question que voilà, la vie elle va comme ça. Au début, il y a des petits groupes, et puis les groupes grossissent, ils trouvent d'autres trucs. Et franchement, ça serait un peu bête de se dire ouais, nous on peut faire des scènes à 5000, mais on fait pas ça, ça pue, on retourne les trucs à 500. Voilà, c'est tout ça, c'est du bon sens, quoi, je pense. Mais ouais, c'est pas grave, il y a des nouveaux ordres qui viennent.
Il y a
voilà,
moyen de remplir des salles. Enfin, si c'est un groupe
notre niveau, nous on a une capacité qui peut monter jusqu'à 650. Donc on sait déjà faire des plus gros groupes. On a eu des No Means Snow, I Hate God, Fishbone, donc on arrive quand même à le faire.
Et DX bientôt?
DX, ce sera à la réouverture, c'est avec Brass and Band, donc avec Mads Gustafsson, etc. On réouvre le 29 août, c'est mon anniversaire, je mets un fût d'ailleurs. Donc ceux qui viennent au magasin à 4. Donc voilà, mais nous on essaye d'avoir une programmation équilibrée, donc on peut très bien avoir... On peut faire une petite configuration 300 personnes, une grande 650, mais il y a des... Là, si on regarde la fréquentation l'année passée, ça va de 4 personnes à 650, hein, vraiment. Donc il y a de tout. Nous, on peut faire des petits groupes, des grands, etc. Maintenant, c'est vrai que les négociations, ben, y a des groupes. Nous, on sait très bien qu'on ne peut pas les faire parce que la salle ne s'y prête pas. Donc voilà, on avait essayé Gojira notamment. Mais rien qu'au niveau technique, ils ont envoyé leur fiche technique. Nous, c'était impossible, quoi. Donc voilà, mais il n'y a pas de volonté d'être uniquement underground, uniquement grand public. Il y a volonté de se faire plaisir avec les groupes qu'on aime bien. Et il se trouve que ça va très large, mais pas dans la musique plus lisse, où on aime bien des gens qui cadent bien avec le lieu, avec l'état d'esprit, qui est un lieu bénévole, ouvert, voilà, où on est là pour venir participer à un événement avec un groupe qui vient jouer en direct.
Voilà, toujours sur Radio Esperanza depuis l'abbaye de Floreffe, avec nos invités aujourd'hui, un débat sur les musiques alternatives, Pierre de la zone, Benoît du magasin 4 et les ogres en la personne de Sam et Mathilde. Et je crois qu'on voulait alors continuer justement sur la possibilité pour des petits groupes de grandir, mais bon, quid des petites salles, c'est elles qui les réussissent à les faire connaître, à les stimuler, et puis finalement, bah, parfois c'est des plus grosses boîtes qui vont toucher s'enrichir ou signer des contrats peut-être. Je sais pas si tu pensais à des
Ah oui, je pensais notamment au schéma Live Nation, notamment en Belgique. On sait très bien qu'ici, tous les petits groupes qui sont découverts soit par les centres culturels, soit par les salles subsidiées, et au passage, c'est aussi l'argent public qui sert à ça, et c'est très bien, et on va pas s'en plaindre, il n'y en a jamais assez, qui ensuite part au bénéfice de grosses structures qui se servent de ces découvreurs de talent. Donc voilà, c'était la question que sur laquelle je voulais rebondir, sur... Ben les salles, est-ce que les petites salles de Liège et de Bruxelles, est-ce que vous en avez pas marre de rester les éternels découvreurs de talents? C'est une question qu'on avait posée à Gilles Lazzaro, hein. Et est-ce que les ogres de Barbac, vous retournez parfois sur ces petites salles?
Alors, on l'a pas fait en Belgique encore, mais en France on le fait souvent, hein. Donc voilà, à nous de le faire en Belgique, mais et au groupe de ne pas oublier là où il a commencé. Mais vraiment, en France, on le fait régulièrement de retourner dans les clubs qui nous ont accueillis à nos débuts.
Mais oui, on en a aussi à la zone qui viennent. Je veux dire, on a eu Hightone qui est venu juste comme ça, alors qu'ils demandaient 3 500 euros et qu'on, évidemment, on n'a pas les moyens. Ils sont venus aux entrées, juste là. Ils ont dormi dans le sleeping, pas à l'hôtel. Il y a des tas de gens comme ça qui savent d'où ils viennent et qui respectent toujours ça. Mais moi, je n'ai pas envie spécialement d'être plus gros que ce que je suis. Quand on travaille à la zone, ben, on sait pourquoi on travaille à la zone. Ce n'est pas pour le salaire, ce n'est pas pour briller dans les médias, clairement. Ça veut dire même pas le Pierre, mais c'est tout. Hein. Enfin, voilà, l'idée, c'est l'intérêt, c'est de découvrir de la musique. Ce n'est pas d'écouter finalement des trucs qu'on connaît. Donc, évidemment, il y a toujours un intérêt d'écouter la musique qu'on connaît, mais je veux dire, au bout d'un temps, ben, c'est très bien s'il y a des gens qui vont chez Clear Channel ou quoi. Zion Train, par exemple, on a fait 10 fois Zion Train à la zone, mais évidemment, maintenant, ils sont chez Clear Channel et ils jouent à Sao Paulo, ils jouent à Tokyo, ils jouent. Et on est toujours très proche de ces gens-là. Quand je vois Neil, je lui dis, tiens, on ferait bien un truc, il dit oui, mais on peut pas s'appeler Zion Train, par contre. Mais c'est pas grave, parce que l'intérêt n'est pas de s'appeler Zion Train et de mettre Zion Train et d'avoir une file de 2000 personnes pour une salle où il y a 200 personnes. L'intérêt est d'avoir un bon moment avec ce mec-là, avec un public qui vient parce qu'il va avoir de la bonne musique, des trucs comme ça. Moi, ça m'est complètement égal, quoi, vraiment. Même pas, je trouve ça normal, quoi, simplement. Ça laisse la place à d'autres, puis voilà, que chacun puisse trouver sa place. Je suppose que c'est plus agréable pour un groupe d'avoir plus d'argent, ça donne plus de moyens pour faire les choses qu'ils aiment, simplement. Et il n'y a pas de raison que les choses qu'ils aiment, quand on aimait ces groupes-là, qu'elles aient changé, simplement, hein.
Je crois qu'il n'y a pas besoin de catégoriser réellement dans l'alternative. Je pense que l'alternative s'efface vraiment à des grosses machines. Après, je reviens là-dessus à dire qu'il y a différentes alternatives, différents moyens de fonctionner, et différentes démarches alternatives. On se rend compte très bien, par exemple, à Liège, que tous ces lieux associatifs comme la Zone, l'Envers, la Culonne, Carlo Lévy, font aussi du populaire. Il faut bien se rendre compte que c'est même pas... Là, on ne va pas rentrer nécessairement dans des trucs très pointus comme le punk ou le noise, enfin les tendances, mais ils font aussi de la chanson française à l'accordéon. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen, voilà, même pour la culture populaire, de pouvoir s'exprimer. Donc je crois qu'il faut sortir de cette idée de catégoriser les styles et les musiques alternatives, et revenir encore une fois sur la notion de moyens et de démarche. Ouais.
C'est pas une question de niveau de vie, l'alternative.
C'est très clair que, par exemple, chez nous, remplir une fois de temps en temps la salle, ça fait vraiment du bien, parce que justement, après, on peut prendre les risques qu'on veut, et effectivement, qu'on va faire un Mad Professor ou Falls des Caribous en after-party de la baie, du Botanique, etc. On va voir 650 personnes, plein d'argent va rentrer, tout le monde sera bénévole aussi ce soir-là, ça va pas changer, et on aura un bon matelas. Et à côté, ben, si on a le petit groupe américain, le petit groupe qui vient du fin fond d'Italie, qu'on a vraiment envie de les faire jouer, ben, on pourra les faire jouer, même si on perd de l'argent et tout, on va pouvoir prendre ce risque-là sur des petits, des gros groupes. Et donc, ça permet de se constituer aussi en tant que salle. Il faut quand même aussi avoir quand même les épaules solides, hein, parce que on peut très très bien se planter 4-5 fois de suite en organisant des concerts.
C'est juste.
Les ogres, ça vous intéresse de faire un stade à 80 000 personnes, par exemple? Je sais pas, me pose des questions.
Non, on aurait l'air malin dans un stade.
Non, je sais pas, avec une installe incroyable.
Si vous faites toute la déco et tout, ça fait de mal.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Non, ça nous est arrivé de faire des zéniths. Et alors, en général, si c'est nous qui produisons, on essaye vraiment d'installer une ambiance. Donc, en général, il y a du monde dans les couloirs, il y a du monde dans la salle, il y a de la déco. Et voilà, on essaye que ce soit pas juste un grand truc tout froid, tout neutre, voilà.
Ben, ce que je dis, les moyens, c'est pas ici. On est toujours dans l'alternatif où je m'accapare le lieu et puis je le donne, quoi. Même si c'est des zéniths et pas des zones, voilà, on rajoute 2-0 au nombre de publics, je pense, un truc comme ça. Mais voilà, c'est une question d'attitude plus qu'autre chose.
Et vous, les salles, qu'est-ce que vous pensez des concours, par exemple, de la communauté française?
On peut dire ce qu'on veut ici.
Oui.
On est totalement libre, sans publicité. Là, pour le coup, c'est très alternatif.
Écoute, mon expérience avec, par exemple, le concours circuit est extrêmement négative. Mais
juste un petit problème de micro. Si tu peux changer ton micro.
Oui, je peux.
Voilà, comme ça, on t'entendra beaucoup mieux.
Donc, quand il y a 15 ans maintenant, j'ai été invité dans un jury du concours circuit. Et le jury a une réunion après tous les groupes qui ont passé. Et la réunion a commencé en disant, bon, on avait bien dit que c'était machin qui gagnait, hein, ben on peut passer à table. Voilà le débat qu'il y a eu pour donner finalement pour désigner le gagnant, c'était Miam Monsterman qui a gagné, je crois. C'était ah oui, enfin bref, je veux dire, le concours en soi peut motiver les gens à devenir bons, à montrer les choses, ça peut donner une vitrine aussi. Faut voir aussi comment c'est géré, faut voir, enfin, je sais pas. Et puis l'idée de dire tel groupe est meilleur que tel autre, c'est un peu difficile aussi, je trouve. Personnellement, enfin, à la zone, on n'est pas pour, on n'organise pas de concours. On a essayé tout une fois d'organiser un faux concours, un truc où, voilà, venez à ce concours-là, ce sera machin qui gagnera. Voilà, et on a fait un truc comme ça. C'était un événement qui dénonçait ce genre de truc. Sinon, savoir que machin est meilleur que truc, ben, je veux dire, c'est une question de goût, quoi, d'abord. Après, tu peux dire, est-ce qu'il est meilleur musicien ou quoi, mais finalement, on s'en fout de ça. Donc, je trouve, enfin, à la zone, on trouve fort ça comme des trucs, effectivement, commerciaux, comment vendre un produit en plus à des gens. Tiens, c'est des groupes inconnus, mais c'est un concours, donc vous pourriez venir les voir et ça pourrait vous intéresser parce qu'il y a ce championnat-là, cette compétition. Voilà, c'est un peu notre opinion.
Mais c'est vrai que c'est assez délicat, hein, excuse-moi Julien, mais bon, voilà, je comprends bien que c'est pas du tout votre rôle et quelque part, c'est plus le rôle des pouvoirs publics parce qu'il faut définir des critères plus objectifs et tatati tatata. Que tu dises ça en plus, alors là, c'est un comble, quoi. Allez, on a décidé du groupe comme ça.
Moi, j'ai été.
Parce que bon, j'imagine que c'est pas toujours le cas quand même, il y a quand même.
Moi, j'ai été juré une fois en finale et on travaillait en groupe de travail. Moi, c'était très bien, j'étais avec Marc Jacobs du Recyclage. Quelqu'un de Radio Panique et Denis du Magasin 4. À l'époque, je ne faisais pas partie du Magasin 4. On a travaillé à 4, c'était très bien. On devait mettre les trois groupes dans l'ordre. Il y avait une dizaine de groupes de travail à 4. Chacun remettait ses trois premiers et après, ils compilaient les votes et c'était parti, quoi. Donc, une autre expérience. Moi, à ce niveau-là, bon, c'est une occasion pour les groupes de jouer. Après, la compétition, c'est très, très subjectif. Nous, on avait reçu une grille, présence sur scène, qualité technique, blabla. Un groupe, il donne ce qu'il donne et le public, voilà, il reçoit. C'est pas une équipe qui bat une autre, hein. Donc voilà, maintenant, je pense que le but de la communauté française, voilà, ils ont dans leur mission, court-circuit a dans ses missions, de motiver et d'aider les groupes en développement en Wallonie-Bruxelles, puisqu'on en est là. Et voilà, ça fait partie des moyens qu'ils mettent en place. Nous, on aura une demi-finale, mais personnellement, c'est vrai, savoir qui gagne, qui ne gagne pas, est-ce que c'est vraiment intéressant, ça, je sais pas.
Bon, avant qu'on lâche les ogres pour qu'ils aillent boire des duvels et manger des gaufres, parce que visiblement, c'est ce qui se raconte.
Pas des duvels quand même, on est à Floref, Julien.
Des Floref.
Non, mais on leur offre que des duvels, alors je lance un appel à tous ceux qui croiseront les ogres, donnez-leur autre chose comme bière, quoi. Il y a aussi de la Floref. Vous parliez tout à l'heure de l'exposition médiatique, hein, et vous en parliez aussi à Violaine dans votre interview, comme quoi vous souffriez de cette non-diffusion des Ogues de Barbac sur des médias. Je voudrais juste terminer cette discussion autour de l'alternative aussi en rappelant tout le rôle des radios associatives, ces découvreurs de talents locaux et puis ensuite nationaux peut-être. Est-ce que ça aussi, c'est des choses qui se posent soit dans un groupe de musique qui dit alternatif, soit dans des salles dites alternatives, comment on compose avec les médias, comment aujourd'hui on arrive à... Est-ce que par exemple aujourd'hui vous souffrez vraiment de cette non-exposition sur les grands médias?
Au début on était plein d'espoir, on se disait c'est pas parce qu'on fonctionne comme ça que les radios, les grosses radios en France vont pas nous passer. Et puis l'espoir très vite est parti, puisque en effet... le fait qu'on ait ce fonctionnement-là fait que nous ne sommes pas passés sur les grosses radios. Et ça, voilà, on l'a vérifié.
Par rapport au major, on n'a que nous à vendre. Les, voilà, c'est clair que personne n'a rien à y gagner à part nous. Donc voilà.
Et puis ça a toujours été, ils n'ont pas besoin de nous. Voilà, ils n'ont pas besoin de nous. Alors qu'on a forcément besoin d'eux à un moment. Mais
au début, on était trop petits, puis maintenant, on est trop gros.
Alors, comment on compose ça, avec ça?
Alors, au début, on est très énervé, puis très vite, ça s'oublie, parce que l'important, il n'est pas là du tout. L'important, c'est qu'il y ait du monde à nos concerts, pour nous, et il y en a. Et ça, c'est la plus grosse récompense. Alors voilà, de temps en temps, quand même, quand on parlait tout à l'heure de faire un 3:30, quand on l'a fait, on s'est dit, bon, bah là, c'est bon, là, on va passer à la radio, là. Et puis, en fait, ils l'ont même pas écouté. Donc voilà.
C'est parce que vous avez pas envoyé un single.
Sur le coup, énervé, et puis en fait, le lendemain, complètement, on s'en fout complètement. C'est pas grave.
Si ça peut vous consoler un tout petit peu, savoir que justement dans les radios associatives on vous diffuse 48 FM, vous êtes dans la playlist de 48 FM, et ça fait déjà des années.
Merci.
Voilà, donc il y a quand même des auditeurs bien sûr et liégeois qui vous écoutent, par exemple.
Merci bien.
Et le mot de la fin pour nos deux programmateurs de salle, est-ce que vous comptez aussi sur les grands médias pour faire déplacer les personnes chez vous?
Nous, on a la pub Club Plasma qui est dans le riffraff chaque fois, mais c'est pas un gros média. Mais par exemple, si on prend le Télémoustique, plus gros média, on n'est pas dedans. La presse quotidienne, il y a aucune exposition là. On est juste dans l'agenda du mal le mercredi, la Libre Culture, ce genre de truc. Mais il faut vraiment aller fouiller dans l'agenda, chercher. C'est très très rare qu'il y ait du rédactionnel sur des artistes qui passent au magasin. Je pense qu'à la zone, c'est pareil aussi.
Alors, comment on promotionne?
Oui, absolument. Internet. En fait, on remercie d'abord Jacques de Pierrepont, qui est là depuis 20 ans, qui fait la promotion de ce genre de musique, effectivement. Maintenant, si on fait autre chose que du concert, à la zone, on fait aussi du slam et des trucs comme ça. Là, on a les médiums moins alternatifs qui arrivent, quoi. Mais pour le rock, effectivement, en Belgique, c'est extrêmement faible. Ou alors, c'est des trucs genre Riffraff ou Presto, machin. Mais Riffraff, soyons bien clairs, j'ai lu une chronique un jour de Osric Tentacles où il parlait de métal. Donc, j'ai un peu dur aussi avec certains machins comme ça, quoi. Malheureusement. Mais voilà, Jacques de Pierrepont, écoutez, si vous écoutez Jacques de Pierrepont sur Pure FM, vous avez ce qui existe comme musique alternative dans tous les styles réellement, et c'est extrêmement riche à chaque fois. Et il me parle que de la moitié de ce qui se passe, évidemment, parce qu'il se passe bien plus de trucs comme ça. Je crois que c'est sur les médias officiels, les gros, sur la RTBF, ben voilà, il y a lui, quoi.
Eh ben, je vous propose qu'on... Oui, Ludo.
Oui, je voulais dire qu'on n'en a pas nécessairement besoin. Je venais de citer l'exemple de 48 qui diffuse les Ogres. Moi, j'écoute les Ogres depuis des années et des années. Je connais des tas de Liégeois. Pourtant, ben voilà, on n'est pas une scène locale pour vous, on va dire, du tout. On n'est pas un public local, mais on connaît. Le bouche à oreille fonctionne aussi très bien. Là, je voudrais revenir sur la notion aussi de licence libre, savoir qu'il y a des tas d'artistes qui s'inscrivent en licence libre et qui, du coup, ben, sont diffusés dans des restaurants, par exemple, parce que comme ça, ben, les restos ne payent plus, la SABAM ne paye plus les droits d'auteur.
Je te laisse discuter licence libre avec les Ogres à la sortie de l'émission, parce que c'est vrai qu'on n'a pas, abordé ce sujet.
C'est aussi un moyen, la licence libre, bien sûr, de passer par des chemins de traverse, comme tu le disais un petit peu, chemin de traverse. Et voilà, et ça existe, et c'est diffusé maintenant. Voilà, on parlait de proportion, mais est-ce que c'est la proportion d'écoute, la proportion qui va définir le talent, qui va définir, je ne crois pas. Il faut revenir un petit peu à la base des choses aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'art, on fait de la musique. Voilà, même si on a 4-5 auditeurs, on fait toujours de l'art, on fait toujours de la musique.
Voilà, on va mettre fin à cette discussion, mais on peut la tenir autour de 2 ou 3 duvels. juste rappeler peut-être les adresses du magasin 4 de la zone.
Donc nous, on est avenue du Port, 51B à Bruxelles, en face de Tour et Taxi, magasin4.be, il y a toutes les infos. On est un peu partout sur Internet, parce que tu me parlais de la promo, ça se fait beaucoup, beaucoup avec les webzines, qui restent vraiment alternatifs, les webzines et sur les réseaux sociaux.
Et Pierre Lamotte,
la zone, voilà,
tu l'as bien cherché, Pierre.
La zone, c'est lazone.be, c'est en Outre-Meuse à Liège. Voilà, allez voir lazone.be. Et il y a aussi Facebook et ce genre de trucs.
Et pour les Ogres, oui, pardon,
Libertech.
Je vais y arriver. D'ici demain.
Mais c'est à Liège, c'est dans la rue Pierreuse, c'est au numéro 17 de la rue Pierreuse. On a un bureau, on va dire, et une borne de téléchargement à Barricade ASBL. Ce sera à partir de septembre, tous les jeudis après-midi.
Et pour les Ogres, c'est Comment je suis devenu voyageur. Et on vous retrouve aujourd'hui côté
cours, je crois.
Ouais. Cours, c'est ça. Merci beaucoup.
Merci à toi, Julien.